Bienvenue à toi aujourd'hui dans cet épisode qui fait partie, qui est dans le cadre du Podcaston, épisode de podcast où les podcasteurs francophones s'associent pour mettre en lumière une association. Et la mienne aujourd'hui, c'est Terre des Sagesses. Terre des Sagesses, c'est une association qui œuvre pour protéger les peuples premiers et pour soutenir en fait la conservation des sagesses ancestrales. Alors je me réjouis de te faire découvrir cette association. Profite bien. Ce sera Barbara Stoedtler que je vais interviewer qui va nous partager son cheminement pour arriver à la construction, à la structure de cette association et comment elle est allée à la rencontre de ces peuples premiers. Donc tout un voyage, toute une aventure. Je te laisse prendre un café, prendre un thé et une très belle écoute à toi. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai le grand honneur, le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Barbara. Alors Barbara, on la connaît en Suisse, donc pour ceux qui, les auditeurs français, elle va se présenter évidemment. J'avais vraiment à cœur de vous partager son travail. Pourquoi ? Parce que quand on parle de spiritualité, on est souvent perché dans les nuages et il y a peu de personnes qui vont parler de spiritualité et l'ancrer dans des projets dans la matière. Et c'est ce que j'apprécie dans le travail de Barbara, c'est-à-dire qu'il y a une vision profondément spirituel, mais comment on agit ici et maintenant. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Barbara. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Barbara, est-ce que tu peux nous présenter, donc tu es une femme d'action déjà, ça c'est sûr, tu es une femme qui donne la vie à des enfants, à des projets. Est-ce que tu arrives à nous présenter un petit peu ton parcours avant d'arriver au cœur de ce qu'on va parler, à Terre de Sagesse? Donc Barbara, quel est ton cheminement? Qui tu es pour arriver à cette création d'association Terre de Sagesse?
Alors, d'abord, je suis une amoureuse de la Terre, je pense, de manière vraiment immense. Et puis, depuis toujours, je me sens reliée à la conscience collective. Et donc, c'est deux aspects qui ont guidé ma vie, avec très jeune une tristesse, voire une déception quand j'ai eu 13 ans, où j'ai vu vraiment le fonctionnement de notre civilisation, où vraiment le pouvoir, l'argent et peut-être certains négocentrismes ou égoïsmes guidaient la structure de la civilisation. Et là, il y a eu, donc à cet âge-là, à 13 ans, un engagement de ma part qui était aussi un engagement de survie, hein, parce que dans ce monde que je voyais, j'avais de la peine à m'y projeter. Et donc, il y a eu un engagement de ma part dans le sens, si je suis sur cette terre, si je suis dans cette société, je veux contribuer à rendre ce monde plus doux et plus juste et plus harmonieux pour les humains et évidemment pour le vivant dans son ensemble. Et puis ensuite, alors c'est toute une longue histoire de rencontres, de guidances et évidemment de projets avec chaque fois une intégration des informations sur l'instant T. Et puis chaque fois, ça a amené une évolution dans les projets qui ont toujours été plus loin dans cette présence au vivant et plus loin dans cette... Moi, j'aime beaucoup cette expression « tisser la beauté entre la terre et le ciel ». Et pour moi, l'être humain, il, dans son incarnation, s'il veut vraiment faire de sa vie un chef d'œuvre, son but, c'est vraiment ça, c'est de tisser la beauté entre la terre et le ciel, c'est-à-dire comment créer vraiment cette harmonie, cet équilibre et cette beauté entre ces deux aspects qu'on a tous en nous, en tant qu'être humain. Ensuite, dans le très concret, il y a eu une association que j'ai fondée en 2003 avec Vincent Girardin. Cette association s'appelle Nice Future. Elle avait comme objectif dès le départ d'être au service de la Terre. J'étais formée dans la communication, le marketing. J'avais créé à l'époque une agence de communication éthique et j'étais assez marquée parce qu'il n'y avait personne qui défendait la Terre. Et l'outil de marketing et de communication m'intéressait puisque aujourd'hui, c'est un outil vraiment pour travailler avec le grand public, pour travailler avec la conscience collective. Et je me suis dit à ce moment-là, on va créer une structure et on va considérer que notre boss, entre guillemets, on travaille vraiment pour la Terre. Et de là, sont nés de nombreux projets comme le Festival de la Terre, le G21 Sustainability Forum, le Slow Design, et aussi des publications comme les premiers guides du shopping éthique, guide du tourisme durable, de l'habitat durable, enfin toutes sortes de d'outils qui pouvaient accompagner toujours de manière joyeuse, parce que je crois que l'être humain, quand il est connecté à lui-même, il est dans la joie. C'est vraiment pour moi, la joie, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est comme le feu ou le moteur intérieur. On en a besoin. On en a besoin pour avoir envie d'agir. On en a besoin pour aussi réveiller notre âme. Donc, toujours dans cette dimension-là et en fonction de où était la conscience collective et qu'est-ce qui me paraissait important à mettre en œuvre dans l'instant T. Et puis, il y a maintenant 10 ans, un jour, c'était un chef d'un peuple qui s'appelle le peuple Souroui, qui est venu avec un Suisse, en fait, qui avait une association qui s'appelle Aqua Verde. Il est venu à ma porte en me disant, Barbara, on a besoin de toi. Et donc, c'était un chef d'un peuple qui est en Amazonie brésilienne. Donc, déjà, cette rencontre, elle a été bouleversante parce que pour moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte, parce que j'ai la faculté de capter un petit peu l'énergie, la présence, tout ce que vit quelqu'un d'autre. Et en ressentant les différentes dimensions que vivait et qui habitait Almir Souroui, c'était ce cacique, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension de présence au vivant que je n'avais pas perçue chez les Européens. Et là, c'était comme un nouveau champ de conscience, une nouvelle exploration de perception qui s'est mise en place en moi, à l'intérieur de moi. Et puis évidemment, un grand nombre d'actions aussi reliées à ces moi je les appelle les gardiens de la Terre ou les détenteurs de savoirs ancestraux, mais vraiment qui vivent encore en autarcie dans la nature et qui ont cette connexion profonde avec le vivant. Et donc voilà, de là est découlé en 10 ans de nombreux projets, de nombreuses rencontres. J'ai essayé de favoriser vraiment la rencontre entre les personnes appelées en Europe par l'écologie, donc les pionniers de l'écologie dans de nombreux domaines, et les peuples, ces gardiens des savoirs ancestraux. Donc j'ai organisé des événements qui allaient dans ce sens-là, comme au cœur des temps ou l'Université du Vivant. J'ai essayé aussi le plus possible de les aider, c'est-à-dire de les amener dans des lieux, des lieux de pouvoir, entre guillemets, qui pouvaient peut-être contribuer, parce que faut pas oublier que leur situation chez eux est souvent dramatique, donc ils pouvaient peut-être contribuer à changer la donne. C'était un peu une déception, je dois avouer, mais je les ai amenés dans des événements comme le G7, de l'environnement ou des choses de ce type-là. Et puis, depuis maintenant 3 ans, je les accompagne un peu au-delà de notre monde, dans leur prophétie. Parce que je comprends de mieux en mieux à quel point leur vision du monde, on a notre vision du monde depuis l'Occident, et eux, ils ont leur vision du monde, et ils sont pas, comme on pourrait le croire, des victimes seulement de notre système. Ils sont aussi des acteurs en train de concevoir le futur. Et ça, c'est, pour moi, c'était vraiment, ça a commencé avec la rencontre qu'il y a eu à Brasilia, qui s'appelait l'Alliance des gardiens de Mère Nature, qui était une rencontre voulue par Raoni. Donc, le Raoni, c'est le grand cacique qu'on connaît souvent, qui est un aîné qui a tellement agi pour la forêt amazonienne. Et donc, Raoni a voulu une rencontre de 150 différents peuples indigènes à travers le monde suite à des invitations qu'il avait eues dans les COP et ce genre d'organisation plus occidentale. Et en ayant vécu toutes ces rencontres, il s'est dit, c'est pas de là que la solution va arriver. Et donc, il a organisé l'Alliance des gardiens de ma nature, donc cette réunion, et j'ai eu la chance d'y participer. Et là, j'ai vraiment pu être au cœur, entre guillemets, de leur vision du futur, de leur convergence par rapport aux visions du futur. Et ces visions-là m'ont amené déjà à changer ma propre vision du monde, mais aussi à nourrir beaucoup d'espoir en moi, en fait. Vraiment, parce que leur vision du monde, nous, on a développé une vision du monde en Occident qui est vraiment une vision très pour résoudre les grands enjeux, la crise écologique qu'on vit, qui sont des visions du monde quand même qui sont axées sur un travail sur la matière, donc la technologie ou enlever la technologie. Enfin, on est toujours sur ces deux paramètres, ou revenir à une simplicité volontaire. Enfin, on est toujours axé sur la matière. Et eux, ils ont développé une vision du monde qui est un peu au-delà, c'est-à-dire vraiment une dimension spirituelle. Mais j'aime pas ce mot spirituel parce que c'est extrêmement difficile de l'utiliser en Occident, mais c'est une dimension vraiment de l'esprit. Et dans cette dimension de l'esprit, je suis convaincue qu'on y trouve le plus de solutions pour notre futur. Voilà, très rapidement.
C'est intéressant, c'est vrai que on s'était pas parlé depuis un petit moment parce qu'on devait être dans nos projets, puis le Covid malheureusement a beaucoup fait qu'on s'est pas mal retourné, je crois, un peu tous les projets associatifs. À un moment, on s'est retrouvé à devoir remettre de l'énergie pour relancer hein, les projets qui sont tous, enfin beaucoup qui sont. C'était difficile de garder le lien. Hein, ce Covid, s'il y a une chose malheureusement qui a été profondément détruite, c'est, je crois, les liens pour pouvoir créer d'autres. Si je reviens, c'est vrai que ça t'as cette dimension, on va utiliser effectivement le mot spirituel, mais ce que je souviens de toi, c'est quand tu dis que tu ramenais des personnalités, c'était des personnalités politiques. Quand tu dis que tu avais le G21, c'était des businessmen, c'était comment des entreprises où vous pouvez ça s'impliquer. C'est-à-dire que tu as toujours cette vision de oui, il y a ce monde spirituel, mais ça veut pas dire qu'on va tous élever des chèvres dans le Larzac. C'est pas ça, c'est comment on ancre et comment on passe dans l'action. Donc tu as ce cheminement là hein, c'est cette ligne qui est évidemment le respect profond de la terre, donc l'écologie. Je pense que il y a aucun peuple premier qui va pas dire La terre est une divinité. Il faut la respecter, évidemment. C'est fondamental. Alors, nous, on va trier nos déchets et puis on dit on va respecter la terre. Ça va évidemment bien plus que ça. Et comment, à un moment, tu as cette rencontre avec le peuple souri? Qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte pour aller, tu organises maintenant cette association Terre de Sagesse pour aller au Bénin, pour aller à d'autres. Comment elle émerge en toi, cette association Terre de Sagesse?
Terre des sagesses, oui. Alors, c'est vraiment né de la suite des projets à l'époque. Bon, il y a eu en moi quand même une certaine rupture, c'est-à-dire que comme je travaillais vraiment avec le tissu sociétal occidental, j'ai bien vu, pour moi, c'était une évidence en rencontrant, et c'était des caciques hein, ou des leaders spirituels, mais en rencontrant ces détenteurs de savoirs ancestraux, que je perdais une grande partie du public occidental qui suivait les projets de Nice Future pour des raisons très simples. Hein. C'est clair que dans un projet comme un grand forum où on parle effectivement de la terre et de l'écologie, il y a quand même toujours l'intérêt pour du business, pour beaucoup d'acteurs, hein, parce que c'est des grandes rencontres, il y a beaucoup de monde. Et puis, on le sait malheureusement, mais à titre personnel, moi j'ai une grande déception par rapport à la transition énergétique écologique et on pourrait dire la décarbonisation, parce que en fait, on est toujours un petit peu dans le vernis du dessus. Le gros enjeu qui est vraiment... comment on arrête de prendre les ressources à la terre n'importe comment, avec des impacts qui sont parce qu'une mine, c'est pas une mine. Une mine, c'est de l'arsenic partout, c'est du mercure partout, c'est des énormes quantités de vie qui sont détruites d'un coup. Enfin, donc ça a pas diminué du tout, ça a même augmenté. Et en fait, bon, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais quelque part, il y a une partie de l'Occident qui veut pas quitter ce modèle-là. Et ce modèle-là, on lui met un joli vernis qui est présenté sous transition écologique, énergétique, où mais c'est toujours comme ça. Hein, il y a une espèce de récupération du business entre guillemets, mais du business qui est pas un business régénératif de la vie, qui est un business qui veut faire comme d'habitude le plus dans la vitesse le plus d'argent possible. Et la même chose dans la décarbonisation. On a ces deux dimensions qui ont été pour moi complètement récupérées. Et c'est clair qu'en arrivant avec les peuples ancestraux, il y a eu une rupture aussi entre ces deux mondes. Et d'autant plus qu'il y a eu aussi une rupture du dialogue. Ça veut dire que je me suis retrouvée avec une présence... en fait, voilà, le grand enjeu qui se révélait à moi, c'était plus de travailler sur la façon de faire les choses. C'est ce que j'ai vraiment pris conscience avec les peuples indigènes, c'était notre manière d'être au monde. Et ça changeait tout. En fait, ça ne servait à rien d'agir sur notre façon, nos projets, nos façons de construire les choses. Ça demandait quelque chose de beaucoup plus profond. Ça demandait une transformation de notre manière d'être au monde. Et ce collapse-là, déjà, il a fallu que je l'intègre, vraiment, pas seulement mentalement, mais dans tout ce que je suis, donc dans toutes mes dimensions. Et puis ensuite, il a fallu que petit à petit, j'amène tout un groupe de personnes avec moi qui se sentaient appelées ou qui comprenaient cette dimension-là. Et ça, ça a pris du temps. Et donc, pour pouvoir avoir cette liberté d'agir dans ce sens-là, pour moi, c'était plus simple de créer un projet où qui s'appelait donc Terre de Sagesse, parce que pour moi, on est vraiment dans un monde où il y a beaucoup de sagesses différentes, complémentaires, et qui sont extraordinaires et pas du tout vues de l'Occident. Donc, ça, c'était un peu l'idée de base de ce nom. Et du coup, de le faire à titre individuel, en amenant le maximum de personnes qui se sentaient appelées avec moi pour reconstruire quelque chose dans le collectif plus large qui est en train d'arriver.
Il y a quelques points, moi, qui sont très intéressants. C'est quand tu dis, à un moment, tu découvres ça avec le peuple Surui, et à un moment, c'est très juste, tu as besoin d'intégrer, en fait. Tu as besoin, mais je dirais presque, de modifier tes cellules. Moi, j'ai vu, il faut changer son ADN pour pouvoir regarder, parce qu'évidemment, toi et moi sommes blanches, hein, occidentales, avec un travail, du marketing derrière, parce que tout projet, quel qu'il soit, demande un moment de rentrer dans la matière, de le faire connaître, de communiquer, d'entrer dans ce monde. Et à un moment, tu as besoin un petit peu de ce moment de retrait pour que ça intègre. Et ça, je trouve très juste. Dans mon parallèle, moi, avec les cultures brésiliennes, dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps aussi, il y a tout ce temps où tu es peut-être un peu en silence parce qu'il y a les enseignements que tu as. Et c'est pour ça que je dis le chamanisme, tu peux pas aller faire 3 week-ends puis t'es chaman. C'est un moment t'as et tu vas peut-être, des fois, tu reçois une leçon. Et c'était une chamane que j'ai interviewée il y a quelques temps en Caraïbes qui me dit « Mais une fois, j'ai eu une leçon, je l'ai reçue, j'ai mis 10 ans à l'intégrer et ça y est, je peux transmettre. » Alors évidemment, les temps sont plus ou moins longs, évidemment, mais c'est ce temps d'intégration et de compréhension de ce que ça fait pour toi pour pouvoir après accompagner les personnes pour que eux l'intègrent en eux et fassent corps avec la mission.
C'est clair que de mon côté, à titre... du côté Barbara, pour moi, c'était des profondes transformations. C'était vraiment si j'ose dire ça comme ça, mais la mort. Alors, j'étais déjà vraiment consciente qu'on jouait des personnages, entre guillemets. Mais j'ai vraiment vu le personnage que Barbara... En plus, comme j'avais une certaine reconnaissance publique, les projections, donc j'ai vu vraiment toutes les projections qu'on amenait sur moi et la mort de ce personnage-là qui m'a pas beaucoup dérangée, mais qui était vraiment cette conscience qu'on... Moi, j'ai toujours... ma perception qui me paraît la plus juste, c'est qu'on a un tube d'énergie. Et puis, la manière la plus juste, c'est de laisser passer l'information sans rien retenir, sans rien identifier, en laissant vraiment ce canal le plus ouvert possible. Et donc, tout ce personnage de Barbara, il a fallu d'abord le détruire, le voir. Alors, j'étais déjà assez OK avec ça, mais c'était quand même un petit choc de voir que j'avais quand même mis quelques petites constructions dessus. Et puis ensuite, effectivement, ce chemin de... par exemple, en Occident, on parle beaucoup de l'interrelation, l'interdépendance, parce que j'étais après beaucoup, beaucoup en Amazonie, beaucoup, enfin, un petit peu au Bénin, j'étais vraiment me baigner dans ces cultures et de ressentir tout à coup une fourmi, un arbre qui vient me donner une information d'une pertinence extrême et qui vient m'aider, vraiment littéralement me soutenir à un moment où je me sens en fragilité. Ça, c'était encore un autre cheminement, c'est de passer d'une conception mentale des choses qui ont été exprimées souvent en Occident, comme l'interdépendance, l'interrelation, en comprenant, en sentant à quel point parfois même ma conscience, elle pouvait être délocalisée. Elle était reliée à un tout et parfois il n'y avait aucune importance. Le petit personnage, entre guillemets, délimité de Barbara, il n'avait pas tant d'importance que ça dans quelque chose qui était plus grand. Il y a eu de nombreuses prises de conscience de ce type-là qui étaient fascinantes, mais qui étaient déjà mentalement intégrées en Occident, mais qui ont été amenées jusqu'aux cellules, effectivement, comme tu le dis, ou à travers tous les sens, sur une information qui était beaucoup plus profonde. Et ça, effectivement, c'est compliqué à exprimer parce que, en Occident, on parle que sur ce plan-là. On est toujours en train de dialoguer uniquement sur ce plan-là. Ça, c'est peut-être quelque chose que je pense qu'on devrait réapprendre, parce que je pense qu'il y a un déséquilibre. C'est à réapprendre à communiquer vraiment sur le point de vue, sur le plan du cœur, qui nous ouvre d'ailleurs plein de perceptions beaucoup plus fines, comme la télépathie ou des choses comme ça qui deviennent naturelles quand on communique sur le plan du cœur. Et puis, sur le plan, je vais l'appeler des tripes, mais je sais pas comment l'appeler, extrasensoriel, c'est vraiment à travers nos sens. Il y a un nombre d'informations et d'informations intelligentes, souvent beaucoup plus intelligentes que l'information qui nous vient par le mental. Mais ça, c'est extrêmement compliqué à transmettre, effectivement, parce qu'en Occident, on a l'habitude de transmettre que sur ce plan-là et sans l'expérience. Donc ça, c'est aussi une des choses qui est venue naturellement, mais que j'ai voulu proposer de plus en plus avec Terre de Sagesse, c'est des expériences à vivre, de sortir des discours et de proposer vraiment des stages où on est dans une expérience à vivre, ou des voyages où là, moi-même, je ne sais pas où on va, je vois l'intention, je vois ce qui est en train de se dessiner, mais c'est l'expérience à vivre. Et c'est plus quelque chose qui est programmé dans le mental et qui va être contrôlé de ce plan-là, pour que on puisse le plus possible passer sur d'autres ou ouvrir d'autres, parce que je pense qu'on va pas arrêter d'être sur le mental, mais on va pouvoir équilibrer en ouvrant les autres parts de nous qui sont un petit peu sclérosées en Occident, faut quand même le dire.
C'est très juste, c'est vraiment ça. Puis ce que j'aime là aussi dans ton partage, c'est, alors je le précise pour ceux qui sont la communauté francophone, c'est toi, tu étais une personnalité suisse qui pouvait, donc dans cet engagement écologique, mobiliser des politiques, mobiliser la presse. Tu étais effectivement tu es une personnalité publique. Ça aurait été tellement, j'imagine, Barbara, tu aurais pu continuer en ayant ces grands forums du business et de l'écologie. Tu aurais pu continuer comme ça avec tout ton ego. Et à un moment, il fallait déconstruire ça, parce que je peux m'imaginer que quand tu es face à des directeurs, tu as cette vision et cette aura, parce que tu en as une quand on te connaît vraiment, cette présence d'arriver à dire, mais en fait, moi, j'ai envie de parler de choses spirituelles, j'ai envie de parler. C'est une part énorme d'humilité. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois aussi, et ce que tu as fait je crois que je t'ai pas vu depuis 2-3 ans. Ça, c'est magnifique, le chemin, mais d'arriver à dire, écoutez les gars, je l'ai traversé aussi, c'est comment on arrive à parler de, et les gars, je vais vous parler de spiritualité africaine, ça, voilà, et toute la projection qu'il y a, je vais vous parler, alors on a une vision peut-être amazonienne parfois un peu fantasmée ou parler ou de l'autre côté qui peut être exclusivement due dans la spiritualité sur les voyages un peu de la Madré, mais voilà, donc les voyages de l'ayahuasca, mais après entrer dans, quand une personne elle va faire une semaine dans la forêt amazonienne pour faire une ou deux cérémonies d'ayahuasca, c'est pas comprendre la philosophie, c'est pas comprendre les messages, c'est pas appréhender, c'est pas se déconstruire aussi et être un moment complètement par terre, en train de vomir ses tripes et des moments de solitude profonde, comme on a pu, quand à un moment on va en profondeur essayer de comprendre une autre culture. Du coup, et j'aurais précisé aussi en préparant cette interview, ce que j'ai aimé aussi, c'est, alors moi je suis sollicitée, il y a des agences qui préparent des voyages, qui me contactent pour faire la promotion des voyages. Jour 1, on va découvrir le AP. Jour 2, on va faire une cérémonie d'ayahuasca. Jour 3, on va vivre une initiation dans le cône d'Amblée. Voilà, vous êtes un grand sage en 7 jours, c'est pas ce que tu proposes. Et dans le descriptif des expériences et des, des et de et des voyages qu'on peut faire avec toi, c'est de loin pas ça. Effectivement, il y a pas de il y a un fil rouge, il y a une intention, mais si tu proposes cette expérience-là, et c'est ce qui m'a profondément touchée, en tout cas dans ce que tu proposes sur ton site internet. Est-ce que tu as déjà accompagné sur un voyage? Est-ce que tu as un projet de voyage bientôt? Qu'est-ce qui se trame pour toi?
Après, il y a toujours, il y a toujours ce que moi j'ai envie de faire, et tout à coup, il y a ce que la vie m'appelle à faire. Moi, je me suis vraiment le plus possible mis au service de la vie. Là, il y a un voyage tout prochainement qui m'amène à aller en Amazonie, mais c'est plus pour faire un film. Il y a une urgence pour les Unicuits. L'idée, c'est vraiment de les aider à démarquer 100 000 hectares. Alors après, bon, on pourrait faire un autre podcast hein, sur les grands enjeux que vivent les peuples d'Amazonie, où là, moi, j'essaie vraiment de les accompagner à sauver leurs terres et à reforester. Et donc là, c'est dans ce cadre-là. Ensuite, je vais en automne, effectivement. Alors là, c'est par contre ouvert à tous ceux qui se sentent appelés. C'est un voyage au Bénin, pays du Vaudou. Et là, on va avec Apollinaire Osulio, qui est pour moi... Alors, je vais le dire depuis comment moi je le vis et comment je le perçois, mais Apollinaire Osulio, si vous connaissez Sainte Teresa, c'est Sainte Teresa, mais version homme au Bénin. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, un prince d'un peuple au Bénin. Et lui, il nous amène vraiment à vivre, à rencontrer les communautés. Donc, c'est toutes des communautés qui ont encore tout cet ancrage par rapport à leur sagesse ancestrale. Et de nouveau, en fait, je vais quand même préciser, pour moi, la force des peuples ancestraux qui vivent encore de manière traditionnelle par rapport à la Terre, c'est qu'ils ont un ancrage par rapport à la Terre et au ciel. Ils ont vraiment, chaque fois, ces deux plans qui sont complètement présents. C'est pas des gens hors sol. Tout ce qu'ils vont rencontrer dans la vie est sacré. C'est simplement une définition qu'on pourrait dire assez simple chez un peuple ancestral, c'est que tout ce qu'il va voir, un arbre, un animal, une plante, un lieu, a une dimension sacrée. Et donc, ça implique le respect, ça implique l'écoute. D'abord, l'écoute avant de décider quoi faire. Et la sensibilité, c'est quelque chose que... Donc, on a vraiment ce pont entre les deux mondes. Et donc, au Bénin, il y a vraiment de nombreuses communautés qui vont avoir différentes relations avec différents éléments, je vais dire ça comme ça, par exemple, différentes forêts ou oiseaux. Là, on a la chance, avec Apollinaire, de pouvoir aller vraiment au cœur des communautés. On est accueillis comme des hôtes privilégiés, donc dans toute cette bienveillance et cet amour. Le Bénin, c'est une terre de joie. Hein. Il y a cette terre rouge, ça pulse, ça chante, ça danse, il y a les couleurs. Et c'est une façon de pouvoir rencontrer ce vaudou qui a été tellement... Moi-même, j'avais un peu peur de cette histoire du vaudou, là. J'avais tous ces préjugés que je recevais en pleine figure. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? En fait, j'ai retrouvé... Alors, je connais beaucoup plus la culture amazonienne, mais j'ai retrouvé les mêmes logiques, les mêmes présences par rapport aux dimensions spirituelles, les mêmes liens avec certains arbres, avec la forêt, le même respect, les mêmes processus spirituels que je vais trouver en Amazonie et qui sont toujours bien collés à la terre, en fait. C'est vraiment toujours relié au vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement surpris en allant au Bénin, mais qui m'a tellement enchantée. Ça m'a émerveillée de savoir que sur cette terre, au-delà des préjugés, des images préconçues, pleines de clichés qu'on a en Occident, il y a vraiment des merveilles. Mais vraiment, on peut pas dire autre chose. C'est des mondes merveilleux. Et je suis vraiment ravie que ça existe et qu'on puisse encore, que ce soit encore présent. C'est pas une histoire, c'est pas dans un conte de fées. C'est réellement là. Et ces mondes-là, ils sont vraiment passionnants à découvrir. Et ils nous amènent automatiquement un miroir sur nous-mêmes. Ça veut dire que tous les voyages nous amènent à nous revoir, à re-questionner, à repositionner nos choix de vie ici. Parce que souvent, nos choix, ils sont inconscients, ils sont reçus. On a été informés dès l'enfance, on a reçu nos programmations comme ça depuis nos parents, depuis la société. On les a pas réellement choisis, on les a intégrés et puis après, on n'arrive plus à les voir. Mais en faisant ce type de voyage, en fait, tout à coup, on peut re-regarder tout ce qu'on est et on peut re-regarder si on choisit encore de ce je sais pas, cette façon d'être au monde ou pas, ce positionnement ou pas. Enfin, ça nous permet vraiment de grandir avec beaucoup de fluidité et beaucoup de, et en retrouvant une souveraineté. Parce que si je choisis, je redeviens souverain de mes propres choix.
C'est très juste, puis c'est magnifique ce que tu dis, parce que, alors, je vais mettre en commentaire de ce podcast, je vais rappeler l'épisode que j'ai fait sur le vaudou et déconstruire les clichés. Quand je dis on va changer notre ADN, c'est vraiment ça. Le vaudou, c'est, alors, je vais le détailler un petit peu parce que c'est un mot qui fait peur, hein, dans notre culture. Hein. C'est, on a tout de suite les clichés du cinéma américain avec les poupées, avec tous les clichés qu'on a. Néanmoins, on a en plus ancré dans notre ADN en tant qu'Européens encore les codes de la colonisation, de la diabolisation que ça en est, parce que ça fait partie de notre histoire, parce qu'il fallait bien diaboliser pour pouvoir les coloniser et pouvoir les évangéliser pour apporter la bonne parole. Hein. Il faut vraiment rabaisser, parce que c'est terrible, c'est comme on a un mépris pour les spiritualités africaines. La vision qu'on a aujourd'hui du vaudou est une vision méprisante européenne, condescendante. Je retiens pas mes mots, alors que c'est une religion, une confession, même au-delà de ça, hein, vraiment une transcendance, comme on peut la retrouver dans le bouddhisme, comme on peut le retrouver en Amazonie. Moi, j'ai écrit un livre, hein, là-dessus, je te l'enverrai, Barbara, faut que je te l'envoie.
Ah oui.
Ouais, j'ai écrit où, à un moment, quand on est au Bénin, on a cette croyance, et Dieu sait qu'avant j'avais fait du chemin au Brésil déjà. À un moment, moi, le jour où je partage souvent, ce moment où je vois un premier Zangpeto, donc dans la culture brésilienne, ce grand cône de raphia d'environ 2 mètres, qui est un objet, et je me suis retrouvée un jour devant ce grand cône de raphia qui bougeait tout seul et qui parlait. Et vraiment ce moment de quand on est en train de se déconstruire, c'est que là, quand on voit la matière qui bouge, on voit la sagesse, et là on se dit, on ne sait plus grand-chose en Europe. Moi, le jour où j'ai vu un Zangpeto qui bougeait et qui parlait, je me dis, je sais rien. Je redescends un petit peu. Là, tu as fait tes initiations, mais redescends, tu ne sais rien. Parce qu'il y a une maîtrise de la dimension quantique, il y a une sagesse que nous, on n'a plus du tout, du tout, du tout. Donc, ça veut dire que ton voyage peut offrir un espace pour aller toucher ça. Toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont écouté ce podcast sur la vision du vaudou, je vous mettrai évidemment les références sur le voyage que propose Barbara dans Terre des Sagesses. C'est une occasion d'aller rencontrer ça. C'est une occasion de voir d'une autre manière notre monde et d'aller transformer notre ADN. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce, en tout cas là, bah du coup d'Apollinaire, même si je te fais une petite touche, si un jour je peux l'interviewer, ce sera avec grand 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 plaisir.
Alors je pense qu'on pourrait interviewer Apollinaire, on pourrait interviewer Ninawa, enfin on pourrait, alors peut-être je vais juste revenir un petit peu sur mon histoire. Donc il y a eu ces peuples indigènes qui sont arrivés. Et puis, il y a eu tout ce travail que j'ai fait pour essayer de créer des ponts et puis d'entrer concrètement dans leur culture. Il faut savoir que je viens quand même d'une famille où ma tante est géobiologiste, mon père est un chercheur de vérité, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc, je viens d'une famille où l'énergétique, où les dimensions spirituelles sont transmises depuis plusieurs générations. Et il y a des grands voyageurs. Donc, je me suis aperçue aussi que tout ça me permettait de vivre ce que j'ai vécu. Hein. Ça, j'ai aussi une reconnaissance vraiment par rapport à mes ancêtres qui ont déjà fait tout un travail. Donc, je me suis quand même sentie à l'aise en allant dans ces différents mondes. Et puis, j'ai eu tout un travail aussi pour aider des projets pour la forêt, pour sauver des parts de forêt, pour racheter des parts de forêt, pour planter des arbres. Donc, tout ça, ça a créé des ponts, des liens et des fraternités qui sont devenues de plus en plus fortes avec de nombreux leaders spirituels d'Amazonie, d'Afrique, comme Apollinaire. Et puis, il y a un grand enjeu, donc c'est pour cela que je vais en avril en Amazonie. Il y a un très grand enjeu qui se passe autour des Unikwi, donc Ninawa est le cacique des Unikwi, où vraiment on essaye de démarquer 100 000 hectares de forêt, mais c'est aussi la rencontre entre la civilisation guillemets, occidentale brésilienne et juste derrière les Unikwi, on a des peuples sans contact. Donc on est vraiment dans cette rencontre qui se fait depuis plusieurs années, mais qui avance malheureusement en mangeant la forêt.
Ça veut dire quoi les peuples sans contact? Excuse-moi, ça veut dire quoi?
Derrière les Unikwi, il y a, je crois, une dizaine de peuples qui n'ont encore jamais eu de contact avec la civilisation.
Ok.
Donc, on les appelle les peuples sans contact parce que c'est des peuples qui vivent dans la forêt comme depuis toujours et puis qui n'ont pas de lien ni avec des autres peuples premiers, souvent, ni avec la civilisation. Et c'est assez préservé parce qu'on sait que lors des premiers contacts, il y a jusqu'à 70-80% de la population qui va mourir de par les virus. Parce qu'ils n'ont aucune immunité par rapport à ce que nous, on transporte. Donc, c'est des peuples qui sont... En tout cas, jusqu'à maintenant, on sait quand ils sont localisés. Et puis, il y a une interdiction pour tout le monde d'aller les rencontrer. Donc, pour expliquer, donc là, on est vraiment en deux mondes. Et là, l'objectif, c'est vraiment de démarquer, de sauver... un grand territoire qui devrait faire un petit peu frontière, qui devrait plus laisser passer. Donc ça, c'est une grosse bataille. C'est vraiment c'est David contre Goliath. Hein. Et le fond, en étant très conscient. Donc c'est ça aussi, c'est ce chemin que j'ai fait aussi avec eux pour essayer de les aider. Dans tous nos échanges, je comprends et je reçois aussi et je vis la même chose d'ailleurs. C'est que en fait, la force qu'il y a pour résister, c'est une force spirituelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va pas falloir agir dans la matière, mais ce n'est pas une action dans la matière depuis la volonté. La volonté va se mettre en place après. C'est la mise en place dans la matière depuis une conscience spirituelle et qui nous unit. Et donc, pour moi, ça a été déjà vraiment de comprendre que c'est pas seulement quelque chose pour soi-même, pour être bien, voilà, pour sauver son âme et tout ça, mais c'est une force pour nous unir ensemble. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très nouveau. Et dans cette conscience-là, cette conscience de cette force spirituelle collective, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Occident, par exemple, on retrouve les mêmes processus qu'on peut retrouver sur la personnalité, sur les dimensions spirituelles aujourd'hui. Ça veut dire qu'on retrouve ce que certains appellent un ego spirituel, mais des gens qui se disent « Ah oui, je suis plus évolué, moins évolué, enfin, tous ces blablabla qui n'ont pas grand intérêt ». Mais qui partent de l'idée qu'il y a quelque chose de plus haut et plus bas et qu'en fait, on est des individus séparés. Et là, dans ce que je perçois par rapport à ce travail pour sauver cette forêt, il y a la forêt, il y a les humains et il y a tous ceux qui tout à coup arrivent parce qu'ils ont été appelés par le projet, mais c'est comme s'il y a un esprit, on pourrait l'appeler l'esprit qu'on appelle ensemble. Et depuis cet esprit qu'on appelle ensemble, c'est comme si les choses, elles se mettent en place pour que ça puisse œuvrer dans le bon sens par rapport à sauver la forêt. Et ce qui est extrêmement intéressant, et ce que je vois aussi dans les voyages, c'est qu'il n'y a plus un sachant et un non-sachant, quelqu'un qui a un don et puis les autres qui sont des moutons derrière à suivre le don. On a différents talents, différents dons qui se complètent naturellement. Et ça, c'est quelque chose que moi, je découvre vraiment dans un travail très concret pour sauver des forêts. Mais c'est un travail, enfin, c'est quelque chose que je découvre et que je mets en œuvre aussi dans les voyages. Et c'est ça qui pour moi, est un shift de la conscience. C'est que pour l'instant, en Occident, on a bien ouvert le champ spirituel, mais on est encore dans combien j'ai fait de cours et de machins et de bidules. Et attends, je te dis, j'ai vu Reiki, bidule, chose. Enfin, j'exagère, mais c'est un petit peu ça.
C'est exactement ça. Le monde du développement personnel chez nous, il est très ma petite prise de conscience, mes propres croyances. Et alors que la spiritualité dans les peuples premiers, on est dans la conscience du groupe. Tu peux faire une cérémonie qui n'est pas utile pour toi, mais elle est utile pour le collectif. C'est ça qui est important. Et c'est cette intention qu'il faut avoir, j'imagine, pour un voyage de partage avec toi.
C'est cette intention, mais c'est aussi l'intention qu'on a sur les projets pour aider des projets très concrets. Et ça, c'est pour moi le grand, à titre personnel, c'est en tout cas ce que j'aimerais pouvoir le plus transmettre en Occident, parce qu'en plus, il y a quelque chose de complètement magique là-dedans. Il n'y a plus de contrôle du tout. Il y a juste de garder la présence à l'intention et plus on est plus ça marche et puis de d'écouter et au lieu de vouloir projeter faire contrôler tenir le truc on est plus dans l'écoute et juste d'agir en fonction de ce qu'on sent Et quand vraiment, il y a un groupe qui fonctionne comme ça, mais ça crée une magie extraordinaire. Et cette magie-là, elle appartient plus à une personne. Elle appartient à l'ensemble. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la guérison de l'humanité. Parce qu'en plus, chaque personne, elle va comprendre ce qu'elle a besoin de comprendre dans ce processus-là. Chaque personne va recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment de guérison, guérison du collectif. Je pense qu'en Occident, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aller là, parce que moi j'appelle ça des sortes de virus qu'on a reçus dans nos esprits, qui sont le système de compétition qu'on reçoit depuis qu'on est petit, le système de jugement où on met toutes les choses et les gens dans des cases, qu'on le veuille ou pas, inconsciemment, très rapidement. Tout ça, ça disparaît, ça passe dans un autre plan. Et pour moi, ce shift-là, c'est le shift qui peut nous amener à vraiment vivre à nouveau en harmonie avec la Terre et nos frères et sœurs, parce que les autres humains et les oiseaux et les animaux sont nos frères et sœurs d'une certaine manière.
Du coup, Barbara, est-ce que tu peux nous transmettre, ou est-ce qu'on peut, pour celles et ceux qui sentent quelque chose comme ça, un appel, est-ce que tu as des portes? Enfin, voilà, si ça a parlé à des auditeurs, est-ce qu'il y a une manière d'entrer en contact avec toi, entrer en contact avec l'association? Comment ils peuvent interagir?
Alors déjà, de manière très concrète, en fait, je me suis un petit peu... Alors ça, c'est mon défaut, c'est que j'ai un peu un esprit qui fonctionne en arborescence comme ça. Mais de manière très concrète, j'étais sur la rencontre avec les peuples indigènes et le chemin que j'ai fait avec eux. Et depuis 3 ans, je les accompagne aussi dans leur prophétie. Ça, c'est juste magique et mystérieux. Et c'est des prophéties qui sont ancestrales. C'est des prophéties qui ont parfois 2000, 3000 ans, parfois on ne sait plus combien d'années. Et c'est des prophéties qu'on retrouve souvent sur plusieurs continents ou vraiment sur plusieurs communautés ou peuples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, c'est extrêmement passionnant de voir ça. Et puis là, pour eux, donc pour les peuples ancestraux, c'est vraiment le temps des prophéties. Ça veut dire que c'est plus le temps de les transmettre, c'est le temps de les vivre. Et moi, je les accompagne là-dedans. Donc l'année passée, on a été notamment voir le Dalai Lama avec il y a un courant qui s'est mis ensemble, qui s'appelle le Grand Conseil de l'Aigle et du Condor. Qui est vraiment des leaders spirituels d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud qui sont sentis appelés et qui travaillent ensemble pour incarner cette prophétie qui, on ne sait pas combien d'années elle a, mais c'est ancestrale, qui annonce que quand ces deux peuples, les peuples du Nord et les peuples du Sud, des peuples ancestraux, se mettront ensemble, on va vivre un temps très long de paix pour l'humanité, un changement, un shift de conscience. Et donc, ils se sont mis ensemble et ils ont été faire des quêtes de vision. Et depuis ces quêtes de vision, ils ont toute une guidance comment agir. Dans ces actions à faire, ils ont 5 mandats. Ils ont appelé ça des mandats. C'est préserver, restaurer certains lieux sacrés de la Terre, qu'on pourrait dire, c'est comme des chakras de la Terre qui sont extrêmement importants pour le futur et pour la respiration de la planète. Et pour la planète étant un corps vivant, c'est comme si l'état de conscience de l'humanité, puisqu'on en fait partie, ne peut évoluer que si ces chakras de la Terre sont préservés et sont nourris. Donc pour eux, c'est extrêmement important que ces espaces sacrés soient protégés, soient nourris. Ensuite, il y a vraiment de constituer des partages de transfert de savoir, de transmission de savoir. Et ça, c'est un petit peu ce que je fais aussi dans les événements, et ils le font aussi, mais ils le font entre eux, entre les communautés. Ensuite, il y a aussi de retrouver les savoirs ancestraux. Et ça, c'est vraiment un travail important que je pense en Occident, on ferait bien de faire aussi. Et il y a de développer une espèce d'alliance mondiale des différentes spiritualités. Alliance ne veut pas dire être pareil. Pour moi, le mouvement d'être pareil, c'est le mouvement de l'intelligence artificielle. On crée soi-disant une vérité, mais c'est pas la vie, elle est pas comme ça. La vie, elle est une forêt et tout est différent. Chaque chose est différente. Mais par contre, si on regarde depuis la façon dont les choses elles sont vues depuis les peuples ancestraux, c'est que chaque peuple a reçu un don, un talent. Et puis en se rencontrant, on peut se les partager, devenir plus ample en intégrant la réalité de l'autre. Et donc ça, c'est des choses que j'organise assez régulièrement en amenant certains peuples rencontrer d'autres peuples et en organisant des voyages autour de ça. Et ça, c'est aussi un voyage qui aura lieu en décembre l'année prochaine. Et puis, là, cet été, il y a vraiment aussi à se réunir maintenant en Europe, après tout ce processus, avec ceux qui se sont appelés avec eux. Et donc, cet été, en août, fin août, du 21 au 25 août, j'organise une rencontre avec les représentants du Grand Conseil de l'Aigle et du Condor en Suisse, avec 5 jours pour travailler sur ces mandats que je viens de décrire et concrètement s'engager, réfléchir et s'engager pour les manifester sur notre terre européenne. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on soit, pour ceux qui se sentent appelés par ça, qu'on se tienne avec eux dans ce travail. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, de les faire aussi rencontrer des cercles je pense, ont besoin de ce regard pour oser faire un pas supplémentaire. Et pour moi, j'aimerais vraiment, là, je suis en train de regarder pour organiser une rencontre avec les milieux économiques, avec la question fondamentale, c'est comment on remet le sacré, les valeurs de la nature dans l'économie. Mais vraiment le sacré, ça veut dire comment on redonne une dimension de conscience sacrée à ce qui est fait dans l'économie. Et puis la deuxième rencontre que j'aimerais vraiment organiser, c'est une rencontre autour de la santé. Pour moi, on a les maladies civilisationnelles qui n'existent pas chez les peuples ancestraux, qui sont les dépressions, burn-out, toutes les maladies d'Alzheimer, etc. Et l'éco-anxiété. Donc, toutes ces choses-là qui sont extrêmes, qui arrivent à certains extrêmes en Occident et qui, pour moi, en tout cas, depuis mon point de vue, les peuples ancestraux ont les solutions pour tous ces aspects de ces maladies actuelles. Et là, j'aimerais vraiment proposer aussi une rencontre parce que c'est des maladies qui n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment des maladies, si on s'écoutait un peu sur la planète, elles n'existeraient pas. Enfin, c'est depuis mon point de vue, hein. Je prends la responsabilité. Mais vraiment, s'il y avait un minimum d'écoute sur ces savoirs ancestraux et puis qu'on s'en inspirait, on les appliquait ici, toutes ces maladies, elles n'auraient pas leur place. Voilà.
C'est très drôle, je trouve ça tellement juste. Donc, mon mari qui est burkinabé, il expliquait à son cousin qui lui est détenteur des sagesses de sa famille, il expliquait une problématique pour un soin d'une personne, il me dit, mais ici, là, il tombe malade de trop travailler. Il essaie d'expliquer le burn-out à ce féticheur africain. Il dit, il tombe malade, il travaille, il tombe malade. Ça paraît, c'est difficile à expliquer, en fait, vraiment. C'est complètement hors norme, effectivement, dans d'autres sociétés. Barbara, on arrive gentiment au terme de ce podcast. Si tu avais un dernier message pour conclure, pour les auditeurs, qu'est-ce que ce serait?
Bon, d'abord, j'aimerais m'excuser parce que j'ai un esprit qui est toujours un petit peu en arborescence. Je sais que je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai d'ailleurs eu un grand complexe par rapport à ça, parce que je me disais, mais non, mais Barbara, t'es pas focus comme les gens. Alors, ça, ce qui n'empêche que j'oublie rien, hein. Je garde tout, mais dans un autre fonctionnement. Et c'est un leader spirituel qui un jour m'a dit, mais Barbara, tu fonctionnes comme une forêt. Une forêt, elle n'est pas en train de faire une allée toute droite, elle construit plein de choses. Mais je sais que mon esprit, il part dans beaucoup de choses. Et déjà, je voudrais m'excuser par rapport à ça. Je pense que les rythmes naturels qu'on a tous en soi, comme les éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu, l'air, sont des ressources qu'on devrait reconsidérer. Le dernier aspect, c'est la simplicité. Ces trois aspects-là, je pense que c'est vraiment des choses qu'on devrait reconsidérer de manière toute simple chaque fois qu'on se pose trop de questions. Si je devais faire une synthèse un petit peu, c'est qu'on a complexifié de manière extrême le monde à travers la petite machine du mental, là, dans notre cerveau. Mais dès qu'on lâche un peu ça et qu'on revient dans un jardin à re-regarder à travers la simplicité, les éléments et la beauté, on retourne très vite à un calme et à une inspiration, à une guidance. Et je pense que c'est vraiment des aspects fondamentaux de toute l'existence, de tout ce qui est sur cette terre, qui seraient à reconsidérer, à remettre au centre de nos vies. À chaque fois qu'on se pose des questions, à chaque fois qu'on se trouve confronté à une un défi ou un enjeu, je pense qu'il y a des grandes réponses là-dedans qui sont, elles, universelles et qui appartiennent à toute l'humanité.
Merci beaucoup, Barbara. Merci. Alors, moi, il n'y a nul besoin de t'excuser. J'espère que même au-delà de nos mots, en fait, nos auditeurs, ils ont pu ressentir l'énergie, là, vraiment ressentir ce qui se passe à ce moment-là et transcender même nos petites Barbara et Virginie pour se connecter vraiment à plus grand et à tout ce qui est en train de bouger, de se mettre en mouvement et peut-être à une forme d'urgence de se mettre en mouvement et de se reconnecter. Je te remercie profondément, Barbara. Je te remercie vraiment pour ce partage. Il y aura d'autres épisodes. Il y en aura d'autres.
Le rendez-vous. Avec joie, avec joie. Oui. Et puis alors vraiment, ceux qui veulent suivre les projets, je pense que tu mettras les deux sites.
Je mettrai tous les liens, oui.
Si quelqu'un sent un appel pour venir en Amazonie urgent, c'est possible en avril, mais ça va être un voyage vraiment dédié à filmer la réalité de ce qui se passe là-bas. Et puis les projets de cet été, il y a toute la communication qui suivra. Tous ceux qui se sentent appelés sont les bienvenus, évidemment.
Voilà, merci beaucoup, Barbara. Je mettrai effectivement tous les liens en dessous de ce podcast. Merci pour tout.